Bienvenue à la French Connection. Cette fois-ci, je suis avec Damien.
Salut tout le monde.
Ouais, dans un pub à Montréal, parce que Damien nous a fait l'heureux bonheur de venir nous voir à Montréal pour donner une conférence sur les black markets. Donc, je pense que tu as quelques éléments très intéressants à nous discuter du black market.
Et on peut déjà donner un petit coucou. Bon, vous avez cru comprendre, il y a Ricky Martins aussi avec nous dans le bar. Hein.
Ouais.
On est bien là, un petit bar de sport. Il y a des télés partout. Il y a des femmes nues sur les tables. C'est très étonnant. C'est à Montréal, quoi. Bonjour tout le monde, en tout cas.
Oui. Donc, c'est ça. Fait que t'as donné une conférence sur les black markets, entre autres que t'as même spécialisé localement ici sur le marché québécois et canadien. Donc, ça a été, je pense, un peu déranger les gens. Ça t'a permis de rencontrer et de voir des gens dans le marché canadien-québécois qui s'intéressent à ce genre de choses-là et qui t'ont fourni un peu d'informations aussi par ailleurs.
C'est ça qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte qu'à Montréal, le Québécois n'aime pas être trop bousculé. Et donc, du coup, dans cette conférence, bon, c'est dans toutes mes conférences et mes ateliers, hein, je fais de manière à fabriquer du 100% inédit et puis surtout du 100% local. Et donc, ben là, 45 minutes de conférence, c'est les 45 minutes où j'ai cherché des informations et je me suis rendu compte que vous étiez vachement bien fournis ici en boutique malveillante, diverses et variées. Alors là, l'idée, c'était de leur montrer les différents types de black market que je peux suivre, hein, ce qu'on appelle les publics, les semi-publics, les privés et les VIP. Et surtout, ce qui était très étonnant aussi, bon, on se connaît depuis très longtemps maintenant du côté de Québec, hein, un petit peu plus à l'est de là où on se trouve, avec le Hackfest, les gens sont super sympathiques, mais c'est la première fois que des gars m'avaient... Alors, je vais être très honnête avec vous, il y avait deux personnes masculines et une femme qui sont clairement dans ce business-là et qui ont voulu me rencontrer ici à Montréal. Donc, non seulement ils m'ont payé une poutine, alors c'était peut-être les services de renseignement, hein, c'était peut-être du mythomane, c'était peut-être... En tout cas, ce qu'ils m'ont montré était assez étonnant. Eux se sont spécialisés dans la carte bancaire, hein, soyons très clairs. Ils m'ont montré deux, trois choses, dont comment ils allaient dans des lieux bancaires, ici à Montréal, et ils savaient dans quelle agence ils pouvaient rentrer certaines cartes de données. Bah, je vais être très, très honnête avec vous, hein, pour tirer du pognon, hein, pour tirer des billets. Et ils m'ont montré donc des lieux, enfin voilà, donc c'était de cette partie-là malveillante, très étonnante. Pour rappeler quand même que ici, il y a encore quelques années, c'était un point central aussi de la contrefaçon de films. Donc on sent qu'il y a quand même, allez, on va être très honnête, comme partout, hein, mais il y a quand même aussi un petit nid de vrais professionnels de la cyberdélinquance, très clairement, qui ont compris depuis très longtemps qu'il y avait de l'argent à se faire avec les internets, avec les réseaux sociaux et donc, bien sûr, avec les black markets. Et la partie positive, j'entends pas positive, mais j'entends les moins malveillants, ceux que j'ai rencontrés pour les entreprises, il y a un véritable besoin, une véritable envie de comprendre ce que c'est, déjà. On entend tous parler du black market, tout le monde a lu, vu, entendu, lu des communiqués de presse, lu des bouquins sur le sujet. Mais mettre le doigt dessus et rentrer dans certains lieux qui ne sont que de l'imaginaire à la base, on voit les gens se dire, mais, et comprendre. Ça, c'est le plus intéressant ici, c'est de comprendre qu'effectivement, il faut faire de la veille. Que oui. Rien que déjà regarder ce qui est proposé est indispensable.
Oui, absolument. Puis je pense que c'est un truc, tu le mentionnes clairement, de confronter les gens avec une réalité qui n'ont, qui croient que de la fiction, finalement. Quand la fiction devient réalité, les gens trouvent ça moins drôle, les gens prennent conscience et commence à mettre des actions en place. C'est très intéressant.
Bon, on l'avait fait ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous avais expliqué que j'avais trouvé une boutique de black market au Canada.
Ouais.
Côté Toronto, si je me souviens bien, où carrément on mettait les noms des rues de Toronto et on tombait sur des gens dont les données étaient vendues. Donc, j'ai fait la démonstration avec les personnes qui ont bien voulu participer. Ils sont très étonnés. Alors, ils ont entendu parler, hein, que ça vendait de la drogue, des médicaments, des armes, des faux billets, peut-être ma belle-mère, hein, d'ailleurs, aussi. Ou en tout cas, des morceaux de ma belle-mère, vu qu'on l'a découpé dernièrement, mais plus sérieusement. Et voilà, ils connaissaient ça, mais ils ne comprenaient pas. En se disant, mais comment ils gagnent des sous? Et là, quand on leur montre très concrètement ces boutiques qui vraiment décortiquent l'humain numérique en le vendant, alors là, ce que j'ai vu ce matin, là, ils vendaient pour $12 canadiens. On comptait, je crois que c'est aux alentours de 10 euros, si je me trompe pas. Pour 10 euros, on avait l'intégralité de la vie numérique d'une personne. On est clairement rentré dans une espèce d'esclavagisme numérique de nos données. Quand vous vous dites que la boutique vous vend à la pièce, quand vous en entendez parler, alors il y en a qui disent « oui, c'est du fantasme », il y en a d'autres qui disent « ah oui, je sais, j'ai vu », alors que c'est totalement faux, hein, je vais être très clair avec vous. Et puis, ouais. Par contre, quand vous leur montrez très concrètement, là, le ton change, mais malheureusement, il est trop tard. Parce qu'avant qu'il y ait tout ça, il aurait peut-être fallu avoir de l'éducation, de la formation, de la compréhension, de l'écoute aussi.
Ouais.
Hein, comme on dit toujours, c'est qu'on n'est jamais prophète dans son sujet, on est prophète en rien du tout. On connaît des infos, on travaille sur le sujet, ça évolue tellement vite. Et les cybercriminels évoluent à une vitesse, mais c'est phénoménal, quoi. Quand on pense qu'il y a encore 3-4 ans, tout le monde trouvait que les ransomware, c'était phénoménal. Aujourd'hui, le ransomware, comme on l'a connu, c'est fini. Aujourd'hui, le ransomware va vous voler des données, va vous chiffrer votre machine, vos serveurs, et puis après, les mecs vont commencer à travailler sur le montant. Dernièrement, j'ai une société, on lui demande 500 000 euros. Paye-moi 500 000 euros. Et encore, je vais être honnête avec vous, hein, 500 000 euros, c'est rien du tout. Hein. J'ai juste prendre l'exemple de la société Altran, qui a eu des problèmes il y a quelques mois, quelques semaines, où ils ont avoué, ou en tout cas, il a été avoué qu'ils avaient payé 1 million d'euros pour recevoir une clé qu'ils n'ont jamais reçue.
Voilà.
Donc là, les 500 000... Mais les pirates, ils sont pas cons, hein, pardon du terme. C'est que ils vont regarder un petit peu vos moyens de payer. Et puis, si vous, vous êtes malin, vous leur dites, bah, écoutez, nous, notre assurance ne payera qu'à hauteur de 100 000, le cybercriminel va s'adapter.
Oui.
Et ça paye. Et il est là le dramatique. Et là, c'est les gens que j'ai rencontrés ici. Tous. Alors, on est aussi dans un secteur où je pense que plus facilement, les gens qui ont eu des problèmes vont venir nous voir. Mais toutes les sociétés que j'ai rencontrées sur mes moments à Montréal, toutes ont été touchées par un ransomware. Toutes ont payé.
C'est terrible. Parce qu'on encourage les crimes organisés de continuer leurs actions. Parce que, puis là, tu parles de ransomware, ça c'est une chose. Puis j'avais lu un article d'ailleurs récemment qui disait que le ransomware est en diminution. Et il est en diminution que parce que c'est devenu un marché moins intéressant. Ils suivent l'argent. On avait du mining qui se faisait beaucoup. Ils suivent l'argent. Tant que l'argent va être à une place, ils vont se déplacer et si le ransomware n'est plus payant, mais ils vont aller dans un autre marché. Mais comme tu dis, ils vont utiliser, ça devient un moyen pour atteindre de l'argent. Ils sont toujours à la quête de cet argent-là. Ils n'arrêtent pas. Puis tu mentionnais que tu trouvais qu'ici, on était beaucoup plus fragile au ransomware que par rapport à ce que tu étais habitué chez toi. J'ai mis l'hypothèse que parce qu'ici, on est habitué davantage de recevoir des courriels anglophones, ce qui fait qu'on va tomber autant dans des courriels francophones qu'anglophones dans le piège. Donc, on est doublement perdant parce qu'on est bilingue que disons, un Français qui va recevoir un courriel anglais, il va faire « Ah, je comprends », puis il va jeter. Donc, on est un peu désavantagé, mais en même temps.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça. Hein, c'est que ici, vous parlez tellement de langues qu'on se dit qu'après tout, les mails de malveillance, on va juste structurer dans la langue de notre cible et ça passera sans aucun problème. Et puis la gentillesse, j'arrête pas d'en parler. Vous êtes super gentils ici. Alors, attention, hein, ne nous voilons pas la face. Ils sont gentils comme un ours, je m'explique. Ils sont très froids au début, ils sont très durs, hein, c'est des bonhommes. Hein. Même les dames, c'est des bonhommes, hein, d'accord, soyons très clairs. Une fois qu'on a leur confiance, ça va super bien. Mais et je trouve que vous êtes impressionnants dans le commerce, par exemple. Alors, entre vous et moi, nous sommes en train de manger une poutine. Nous aurons notre petit 5 minutes poutine tout à l'heure. Hein, promis juré craché. Ben ici, les commerçants, c'est pas comme en France, hein, soyons très clairs. C'est déjà des bonjours. Que puis-je pour vous? Je vais vous servir de A à Z. Alors, comme on disait aussi, c'est qu'ils sont payés très certainement aussi à la commission. Hein, donc, du coup, plus je serai gentil avec mon client et plus potentiellement je vais lui permettre d'acheter des choses. Enfin, juste l'éducation. Je vois la dame qui nous a apporté tout à l'heure où on a été boire un verre. Elle nous rapporte le lecteur de carte bancaire. Elle se retourne. Elle ne veut pas regarder le code. Donc, elle le montre physiquement qu'elle respecte la personne. Elle ramène l'étiquette. L'étiquette, elle le retourne. Enfin, voilà, c'est bon. Sinon, par contre, vous écoutez pas mal de musique de merde. Hein, vous entendez autour de nous. Hein.
Ouais, c'est un autre problème.
Nous saluons toutes les sociétés, SACEM et compagnie. Je ne sais pas comment vous allez faire pour récupérer les souhaits de Nicolas, mais la musique ne fut pas responsable. Hein.
On va la filtrer autant que possible.
Donc voilà, donc plus sérieusement, c'était très intéressant de voir que toutes les sociétés que j'ai vues, il y en avait une bonne quarantaine sur la période où j'étais ici à Montréal, toutes ont été touchées par un ransomware. Toutes ont payé. Ça, c'est fou, parce qu'on se dit qu'en face, les mecs, les malveillants, Je n'ai jamais, j'ai pas, par contre, eu l'outrecuidance, l'honnêteté de leur demander est-ce que vous avez bien reçu la clé de déchiffrement? Est-ce que ça a bien servi? J'ai tellement été choqué intérieurement et même indirectement de me dire mais quoi, ils ont tous payé? Je me dis mais est-ce que les malveillants en face ont bien donné la clé? En tout cas, les malveillants en face, je pense qu'ils sont dans un transat, les doigts de pied en éventail au soleil, en train de boire une pina colada, en train de se dire, l'argent tombe facile. C'est fou. Oui,
en plus. Puis, au niveau des entreprises, ce qui est un problème, c'est pour certaines, ça va être moins dispendieux de payer et d'avoir la clé que de prendre des mesures en place et de récupérer l'information. Et c'est le calcul financier, malheureusement, avantage des criminels. Et comme tu disais, que les criminels vont s'adapter, ils vont jouer dans la strate où ils savent que l'argent va tomber facilement, ben j'ai l'impression que justement, ils vont viser justement dans l'espace où ils savent que les compagnies ne paieront pas, vont être prêts à payer parce que ça va leur coûter plus d'argent. Donc, ils sont juste en dessous du seuil. Et à l'heure actuelle, ils doivent déjà trouver c'était quoi le seuil selon le type de marché, selon le type d'entreprise.
C'est ça.
Fait qu'ils doivent avoir des grilles qui existent dans le black market qui expliquent que telle entreprise de telle envergure est prêt à payer jusqu'à temps parce que ça va lui coûter tant s'il ne paye pas parce qu'ils vont devoir récupérer. Donc.
Ben là où je suis certain, c'est qu'ils font des revues de presse. Je savais déjà qu'il pouvait y avoir des tractations pour « on me demande 100 000, je vais essayer d'en payer 20 000 ». Je savais que ça existait, j'en avais pas les preuves. C'est la première fois que des entreprises m'ont donné et m'ont dit « ben voilà, nous, clairement, on a discuté le montant de ce qu'on pouvait payer ». Pas de « on a discuté le montant parce qu'on ne sait pas payer », non. Voilà ce qu'on peut et ce qu'on est capable de faire pour payer. C'est fou. Donc ça veut dire que l'entreprise, elle ne peut pas payer 100 000, mais elle va proposer 20 000. Le mec en face, il va accepter. Il s'en fout tant qu'il touche des sous.
Oui.
C'est ça qui c'est complètement dingue.
Avec peu d'efforts en plus.
Ah bah, je suis désolé, hein, mais l'effort, hein, si c'est commencer à taper un Google Doc qui va me sortir les logins, les mots de passe, qui m'ont donné accès aux mails de l'entreprise et qui vont donc ensuite me donner information sur les réseaux sociaux avec d'autres données, j'emmagasine tout ça. Vous savez, les scammers, hein, les fameux fraudes nigérianes qui vous draguent en vous disant « je suis une belle blonde », ils ont déjà toutes les informations sur vous à leur petit niveau. Alors imaginez des vrais professionnels. Et donc là, j'étais assez étonné. Et puis, c'était pas des petits montants. Hein. Il y en a un qui très clairement m'a dit bah, « nous, on a payé 50 000 $.» Ah, bah, donne-les-moi, j'ai acheté des disques durs, moi, t'inquiète.
Je vais m'occuper de ta sécurité pour ce prix-là.
Donc, oui, ouais, voilà. Donc
c'est fou, là.
Bah, ce qui est fou, c'est qu'on se dit aussi que là, les malveillants, surtout dans le ransomware, mais on parlera d'autre chose après, c'est que aujourd'hui, ça n'attaque pas que la machine. Hein. Il va dire que je te fais les backups, que je te fais les clouds, que je te... Voilà. Ouais. On sent que la structure professionnelle, elle est là maintenant. Hein. On a vraiment des gens qui se sont dit, il y a de l'argent, ça va être facile à soutirer, vous vous protégez pas mieux que ça, bah, c'est Noël.
Oui, et de toute façon, cette quantité d'argent-là, c'est facile pour le crime organisé de payer des personnes qui sont, sont super, qui sont des champions dans leur domaine. Et donc, on est en train, même à la limite, de faire un certain drainage de cette compétence-là. Il y avait eu un DEFCON, mais en fait, il y en avait une personne qui était là, qui travaillait dans ce secteur-là, qui était venue en discuter. Le crime organisé, on a eu dans des cas plus récents où le crime organisé, on a eu cet élément-là, où justement l'élément TI est apparu, où il faut commencer à faire ce genre de choses-là. Donc, ça devient central. Fait que, donc, même le crime organisé, maintenant, est clairement intéressé par ça. Et donc, ils vont mettre le temps et l'énergie. Et ils ont les sous.
C'est ça.
Et malheureusement, ils mettent plus de sous que nos entreprises.
Et puis surtout que les gens en face, qui participent à ce genre d'organisation, on se rend compte qu'ils n'ont pas besoin de milliards. Parce qu'on parle beaucoup de la Russie. On parle beaucoup de la Chine. Salut Michael. C'est Michael Jackson qui est venu nous rendre visite. Salut Michael. Donc, ils sont sur les tables, excusez-le. Mais pour revenir sur ce que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'on parle beaucoup de la Chine, de la Russie, etc. Regardez aussi un petit peu du côté de l'Inde. Regardez aussi un petit peu du côté du Pakistan. Ils n'ont pas besoin de 1000 et des 100, hein, mais ils ont des structures, des équipes et des populations qui sont d'une efficacité assez redoutable.
Oui, absolument. Mais de toute façon, tous les pays émergents, là, on parle de tout le bloc, la Chine, la Russie, l'Inde, on fait partie du Brésil aussi, doit faire partie de ce bloc-là, ce qu'on appelle le BRIC, finalement, sont ce passant de pays-là en émergence qui ont beaucoup de capacités cyber, qui ont beaucoup de gens, pas suffisamment de travail pour les occuper. Et en ce temps-là, bien, ces gens-là sont trouvés des moyens de faire de l'argent sur le dos des pays qui sont mieux nantis. Donc, ils drainent la ressource des pays plus nantis vers les pays émergents, dans ce cas-ci, parce qu'ils ont, le nombre.
Je vais en profiter parce qu'il y a notre charmante serveuse qui est là. Vous pouvez venir 30 secondes. Vous embêtez 30 secondes. on est en train d'enregistrer un podcast. Vous, en tant que commerçant, il y a souvent des fraudes à la carte bancaire.
Oui.
Et ça fonctionne comment ici? Comment vous vous en rendez compte?
Pour nous autres, on est très chanceux. Comme vous voyez avec monsieur, on fait très attention avec notre machine. On ne laisse jamais la machine. On fait très attention à la machine au bord. Oui, tiens. On est chanceux ici. On ne reçoit pas beaucoup de rapports de fraude.
Tant mieux.
Oui, mais c'est vraiment une question de faire attention à tout.
Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Merci.
Bienvenue.
Merci énormément.
C'est je trouvais que les angles étaient parfaits. On parlait tout à l'heure des commerçants. J'ai sauté sur l'occasion, pas sur la dame. Hein. C'est pour mon épouse qui écoute. Hein. Je dis non, ma chérie, tout va bien. Je suis avec Nicolas. Hein. Non, mais voilà. Pour vous dire
surveillance.
On est ici dans un bar qui doit recevoir très certainement des milliers de personnes. C'est vraiment le bar typique à l'américaine. Hein. Là, devant moi, j'ai une superbe affiche du Super Bowl qui, à de fortes chances, finira dans ma valise si je me fais pas attraper. Mais plus sérieusement, voilà. Ici, c'est clairement le lieu de rencontre des sportifs et donc je pense qu'ils doivent brasser des milliers de personnes. Mais regardez, on est déjà une très bonne commerçante, mais qui est éduquée à la cybersécurité. Je ne perds pas la carte de vue, je ne perds pas mon lecteur que je laisse dans les mains d'un client. Ma machine là-bas est surveillée. Plus des éléments que moi j'ai repérés. Mais ça, c'est plus des questions de social engineering. On en parlera plus tard. Mais voilà, on se rend compte que... Je suis désolé, mais je n'ai jamais vu ça en France. Et c'est une question que je pose très, très souvent. En France, dans les commerces, on va me dire « fraude de carte bancaire, ça n'existe pas !» Ça, c'est pour les nordistes. Je ne vous fais pas l'accent du Sud. Non, voilà. Et je me suis rendu compte que, par contre, ça, cette éducation-là... Alors, certes, on est dans un commerce, mais du coup, ils en parlent et puis on sent qu'entre eux, ils en ont parlé. On sent qu'il y a eu déjà cette petite formation. Alors, clair, hein, c'est le nerf de la guerre hein, pour eux. Hein, si c'est des données bancaires qui ne rentrent pas dans la caisse, ça veut dire que c'est une perte d'argent.
Oui.
Mais ça montre que ça réfléchit. Et je pense, comme on le disait tout à l'heure, c'est comme pour le ransomware, si on n'en parle pas avant, il ne faut pas pleurer après.
Non, mais c'est ça. Tu parlais justement qu'à Montréal, ils mettaient des affiches dans certains commerces qui, dans le fond, indiquaient aux gens que finalement, venez pas là parce que vous allez avoir des problèmes si on vous surprend en train de faire les choses. Donc,
c'est les trois personnes que j'ai rencontrées hier, hein, ces deux hommes et cette dame. Clairement, l'un des mecs faisait vraiment dans la fraude à la carte bleue. Il m'a dit, venez. Alors, ici, ça tutoie. Donc, il dit, viens, je vais te montrer. Et j'ai dit, tu vas me montrer quoi? Il m'a dit, je vais te montrer les agences où il ne faut pas y aller. Il ne faut pas aller éventuellement si on veut faire une fraude, ou en tout cas, blanchir avec une carte bancaire plus ou moins bancale. Et puis, je dis, comment tu le sais? Il dit, regarde là, sur la fenêtre, c'est marqué. Si jamais il y a une tentative de fraude, alors exactement le terme, c'est une tentative de fraude à la carte bleue, eh bien, nous appelons la police. Il dit, je ne vais pas aller là. Ils me préviennent déjà ce qu'ils vont faire si jamais ils me repèrent. Nous avons un mouvement qui est très intéressant. Autre mouvement que j'ai trouvé aussi très intéressant dans les questions qu'on peut mettre posées ou dans les rencontres, les enfants, les ados. Je me suis dit, en France, on a des structures qui se mettent en place d'une manière sérieuse. Et j'étais très étonné de voir qu'ici, on éduque encore peu les mômes, les ados, à cette problématique qui est leur vie.
Ouais.
Nous, on est des vieux, façon de parler, hein, je vois encore un beau gosse, hein, mais voilà. Mais je veux dire que on est des mauvais joueurs, dans le principe où on est là depuis très longtemps.
Ouais.
Mais nos enfants, ils y vivent, ils y sont nés dans ce numérique, dans cette informatique. Donc la cybersécurité devrait être dans leur gène aussi. Et je me suis rendu compte ici, énormément de questions ont été posées de qu'est-ce que vous faites chez vous, comment ça fonctionne, etc. Du coup, j'en ai profité pour reparler des As du Web, de cette fondation ELISA France. Plein de gens m'ont demandé de télécharger. Et je pense que là, il y aura... Alors ça, c'est pour les gens de cette association, hein, mais... Voilà. On se rend compte qu'en fait, les gens ne discutent pas tant que ça entre eux, hein, de cybersécurité. Je trouve que ça serait indispensable. Et donc, on m'a posé plein de questions en disant, comment ça fonctionne avec les enfants? Je dis, mais c'est simple, hein, vous, quand vous rentrez chez vous, vous ne parlez pas de cybersécurité? On ne parle pas du travail. Mais what the fuck, comme disent les jeunes. Quand vous allez pleurer parce que vous avez acheté un super ordinateur portable à votre gamin qui va jouer à Fortnite, à Apex, ou alors au dernier jeu de chez Ubisoft, je sais pas, moi, Assassin's Creed, je parle d'Ubisoft parce que ici, c'est l'un des plus gros employeurs de Montréal. Watch Dogs 3 quand vous voulez, les gars. Mais vous achetez un ordinateur portable à votre gamin qui est une machine de guerre en puissance. Qui, si vous ne prêtez pas garde, votre gamin va télécharger un logiciel qui, soi-disant, va le faire gagner dans un jeu vidéo, mais qui va surtout utiliser la puissance de calcul de sa bécane pour péter des mots de passe. Quand vous voyez que certains ordinateurs avec des tables Rainbow vont vous exploser des mots de passe en quelques secondes.
Ouais.
Votre gamin, il a un ordinateur qui est 10 fois plus puissant que votre ordinateur d'entreprise. Enfin, voilà, c'était très intéressant aussi, ce genre de rendez-vous. Ouais.
Très intéressant. Puis, comme je soulignais dans notre pré-show, au Canada, du moins, on n'a pas une culture aussi élaborée, aussi avancée sur l'éducation de la jeunesse. De ce que j'en sais, les écoles encadrent peu ou pas. On a eu quelques cas de cyber-intimidation ou de sexto qui ont circulé justement dans des écoles secondaires avec des jeunes de 14 ans qui font face à la justice criminelle, qui font face à des enquêteurs qui ne sont pas gentils et qui les bousculent. Ces gens-là, plusieurs ont trouvé à être expulsés de leur école. Il y en a plusieurs qui sont stigmatisés maintenant, qui ont un stigmate très important, qui vont aller en cours. C'est pas drôle, là, c'est ce genre de choses-là. Puis, pour des gestes qui sont banals, cette école-là en particulier, ben là, depuis, on a entrepris des mesures pour encadrer ça. Mais avant, il y en avait peu. L'école de mes autres enfants, trois écoles différentes, aucune de ces écoles-là, à part une simple visite d'un policier ou d'une policière, pendant une très courte durée, pendant une fois, pas de suite, c'est tout ce qu'ils reçoivent comme encadrement niveau scolaire. Là, ils reposent sur le fait que les parents doivent faire le restant du travail quand la plupart des parents, nous on est chanceux parce qu'on a une éducation de connaissance, peu de parents ont ce degré de connaissance-là, sont pris avec des enfants qui consomment des produits numériques dans lesquels eux-mêmes les parents ne comprennent pas. Moi, c'est la base, même au-delà de tout ça, j'ai suivi mes enfants. Je suis sur Snapchat, Musical.ly, Instagram, nommer la plateforme sur laquelle mes enfants sont, j'y suis pour voir ce qui se passe, pour comprendre ce qu'ils font minimalement sans voir m'immiscer, sans contrôler leur contenu, mais au moins comprendre la réalité pour être capable de leur parler au moins avec des mots qu'ils comprennent. Ça peut être un vieux dépassé d'une autre époque, comme nous-mêmes, on a fait avec nos propres parents, tu vois, vous comprenez rien, mais je m'arrange pour ne pas être dans cette situation-là. Là, j'ai la chance en plus d'être un professionnel en sécurité, fait que je fais pas comme on t'a relaté. Moi, j'encadre mes enfants, je leur explique les risques. Je leur explique ce qui se passe, je leur explique que les malveillants, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leurs informations, qui vont les piéger. On a eu quelques alertes dans les écoles avec Musical.ly, entre autres, je crois l'année passée ou l'autre, où les écoles ont averti qu'il y avait des manœuvres avec Musical.ly pour leurrer des jeunes, des jeunes filles principalement, mais qui servaient pour les leurrer. Donc, ils ont averti. Et de ce moment-là, si les parents qui reçoivent ça comme une communication froidement, sans aucun contact,
c'est ça.
Vont dire « Vas-y pas, c'est dangereux! » Ben, l'enfant écoute pas. Si on remonte au premier épisode, le premier épisode qu'on a enregistré dans un café, justement, on avait discuté de ça, puis c'est pas par la négation qu'on va arriver quelque part. C'est pas dans la négation qu'on va arriver à nos enfants quelque part, c'est dans l'accompagnement,
c'est ça,
dans l'éducation, dans les aider à comprendre, maîtriser le risque, savoir où faire attention sans leur interdire de quoi faire, ce qu'ils vont nous coûtera pas de toute façon.
Mais tu as complètement raison. Eh bien, la première fois où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis « on est des professionnels de la sécurité, on sait ». Je vais être honnête avec vous, sur le sujet de nos ados, on en apprend toutes les heures.
Ah oui.
C'est furieux et surtout là, j'ai fait la démonstration à deux dames tout à l'heure. Enfin, donc tout à l'heure, ça veut dire au moment où on enregistre. Deux dames que j'ai rencontrées lors de mes conférences. Et je leur ai dit, mais vous savez, il y a encore 3-4 ans, on disait à nos enfants, mets-toi pas en photo un petit peu dénudé. On leur disait, attention, des gens peuvent regarder. Il y a quelques semaines, alors c'est pas mon but, hein, je le fais jamais dans le podcast, mais là, c'est l'occasion pour vous d'aller voir un peu plus loin. J'ai écrit un petit article sur mon blog Zataz où j'explique qu'aujourd'hui, il y a des professionnels de la malveillance qui vont faire des phishing, non pas pour vous piquer vos données, piquer vos mails, prendre la main sur votre compte, c'est juste voir si vous n'avez pas sauvegardé des photos que vous avez pu faire pour votre copain ou votre copine. Et les mecs, pardon du terme, ce sont des enfoirés, ils ont ouvert des boutiques dans lesquelles vous avez des dossiers. Allez voir sur le site, vous verrez, j'ai fait des captures écran. Je vous cache pas que certaines photos m'ont particulièrement gêné, je vais être très clair avec vous aussi. Certaines qui m'ont particulièrement gêné parce que je considère que ce sont très certainement des mineurs, les autorités doivent être au courant, pour clairement péter les jambes à ces gens qui font ce genre de commerce. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'adultes dans ce genre de commerce où on a la ville Alors, la région, j'avais la région, donc d'abord le pays, la région, la ville, le nom, le prénom de la personne infiltrée et ses photos. Donc, ça veut dire que les mecs doivent très certainement passer des nuits et des jours à trouver des cibles, à tenter de les infiltrer, de fouiller leurs comptes mail, de fouiller leurs informations, en tout cas leurs données sensibles, d'espérer trouver des photos, et dans ces photos, espérer trouver des photos des sexuilles, hein, soyons très clairs. Hein, j'ai énormément de boutiques avec des rapports sexuels, ou tout simplement dénudés. C'est fou. Alors, je pense que déjà, c'est nous, alors, on fait ce qu'on veut de sa vie privée. Je fais énormément de photos et de vidéos avec mon épouse, mais on les diffuse pas. Par contre, on les vend, si vous voulez, hein. Mais plus sérieusement, voilà, chacun.
Je suis pas convaincu que ton épouse va être contente.
Ben non, puis surtout, on les propose à la vente, personne n'en veut, c'est dégueulasse. Mais plus sérieusement, voilà, non, mais c'est pour vous dire que chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée. Mais le problème, c'est que il y a sa vie privée numérique. Merde, faites gaffe. Arrêtez de penser que le cloud, c'est votre sauvegarde. Arrêtez de penser que votre Gmail, mais ça peut être aussi Hotmail, que ça peut être aussi votre Free, votre Orange, etc., peut servir à sauvegarder ce genre de données. Ah, ton amoureux ou ton amoureuse t'a envoyé une photo un peu coquine pour te faire plaisir. What the fuck, comme je dis tout le temps, quand on est amoureux, c'est avec ses deux mains. L'appareil photo, le téléphone, la caméra, non. Mais surtout, aujourd'hui, il y a des gens qui se sont spécialisés dans ce vol de données. Alors, je sais pas si vous entendez la musique qui est en train de tourner autour, mais on est loin d'être dans du fun, là, hein, et ça se vend. Et c'est ça qui est encore plus inquiétant.
Il y a de l'argent. Tant qu'il y a de l'argent, les gens. Oui, la vie privée, mais.
C'est peut-être pour ça que personne veut acheter mes photos. C'est que c'est proportionnellement à la taille de mon zizi. Et comme il est petit, il y a peu d'argent à se faire.
Vu de cette façon.
Peut-être. Mais merci de me soutenir.
Ben, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas, ni d'un sens, ni de l'autre, pouvoir affirmer quoi que ce soit. Et je n'ai pas l'intention d'acheter des photos qui sont
sans stress. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, on va éviter de se foutre à poil quand même.
Non, un minimum de décence.
Mais bon, voilà, c'est vraiment pour dire que sous des apparences de « je me prends photo, un peu coquin », etc., dites-vous qu'aujourd'hui, en plus, dans ce black market, il y a aussi ce business-là. Et ça fait franchement peur, parce qu'on voit clairement que les gars n'ont déjà 100 fois ni loi, mais sont prêts à tout, quoi.
Entre autres, mais dans le fond, pour revenir sur le cas que je mentionnais des jeunes 13-14 ans qui ont été attrapés, ben c'était essentiellement ça qui est arrivé, des photos dénudées de jeunes mineurs qui se sont échangées entre eux autres. Et on s'en servit à la limite jusqu'à faire de l'intimidation avec les filles qui ont été visées. C'est grave parce que c'est de la pornographie juvénile. C'est faites attention parce que même si tu es un mineur, l'autre aussi, donc vous êtes joué dans des zones très, très sensibles.
Ah oui, oui.
Il s'est changé. Un, de toute façon. Pourquoi? Si vous allez de demain, cette sphère-là doit se vivre dans le monde réel. Gardez votre enthousiasme pour vous. Gardez-le quand que vous êtes avec votre amoureux, votre amoureuse. C'est pas nécessaire. Oui, à la limite, des bitmoji coquins, dans la mesure où les bitmoji peuvent être coquins, mais limitez-vous à des choses comme ça ou à des mots, pas des images.
Nicolas est en train de me dire que les emojis peuvent être coquins. Il me fait peur, les gens. Il me fait peur.
Ah, coquin, c'est plus romantique que coquin, là, mais ça véhicule le message. L'important, c'est de véhiculer le message qui va avec et non d'avoir des images explicites. Puis c'est peut-être aussi un problème de société, cet engouement, l'image explicite aussi oblige. C'est un peu épeurant parce que, comme toi, j'ai des filles à la maison. Donc, d'éviter qu'ils soient utilisés ou qu'ils se fassent convaincre de générer des images coquines, semi-pornographiques, que parce qu'on leur a fait miroiter quelque chose.
Je rencontre aussi beaucoup d'ados, filles ou garçons, qui vont eux-mêmes les créer pour renvoyer leur amoureux à leur amoureuse. J'ai vu pas mal de gamins, là, dernièrement, dans des ateliers que je peux faire dans des collèges, où ils m'ont dit très clairement, « Ah ben nous, c'est pour lui prouver qu'on l'aime. Ben, t'es gentil, garçon, ou t'es gentil, jeune fille, mais est-ce que t'as besoin d'envoyer ce genre de document pour lui prouver que on est dans un monde de l'image où la télé-réalité, donc la photo-réalité, est censée convaincre d'une honnêteté intellectuelle ou humaine, ça fait peur. Alors quand on leur fait comprendre que ça pourrait finir sur un site pornographique et que dans 2-3 ans, quand ils vont chercher du boulot, on va les retrouver à poil sur un site de cul malveillant, et il y en a malheureusement énormément, ça sera une autre ambiance. Hein.
Pour les jeunes, c'est déjà troublant, mais j'ai déjà eu qu'on m'a rapporté, j'ai fait des adultes en ce cas-ci qui se sont retrouvés sur YouPorn. Puis une fois que les collègues l'ont trouvé, c'est fini. La réputation est détruite parce que même si le geste est naturel, l'usage de ce véhicule-là pour propager ça est malsain.
C'est ça.
Et j'ai même, je pense, je me rappelle, c'est à l'université aussi, il y avait une fille qui, à qui des images de cette nature-là ont commencé à circuler. Fait que ça vient détruire sa vie sociale, ça vient détruire tout sur la base qu'elle a décidé de faire des quelques sous avec ça en plus. Donc, on est dans un univers où la fluidité des images, la fluidité de l'information est rendue telle qu'il faut qu'on change la façon de faire. Puis, je suis un peu troublé par les questions que tu as eues.
Ah, mais j'étais... Ben, je pense que bon, je suis quelqu'un d'assez ouvert, donc et je pense que la conversation, la communication est beaucoup plus simple ici. Hein. Les gens sont beaucoup plus simples, beaucoup plus... Alors, comme je disais, hein, on a d'abord l'ours, et puis après, on a l'humain. Non, je taquine sur ça, parce que c'est, le départ n'est pas évident. Après tout, c'est normal, hein, l'inconnu. Mais non, non, là, les gens... Alors, c'est peut-être parce qu'il y a le podcast, c'est peut-être parce que maintenant, je viens plus souvent ici, puis aussi, oui. Les gens se renseignent. Puis j'ai rien à vendre, moi.
Faut peut-être prendre l'accent.
J'ai déjà du mal avec mon accent français, alors on va éviter de prendre le tabernacle. Ouais, non, mais c'est... Voilà, donc, non, j'étais particulièrement intéressé sur le fait de l'intérêt qu'ont les gens sur des questions qui me paraissent tellement anodines. Et c'est là où on se rend compte que c'est pour ça qu'on doit tout le temps se mettre en question. Moi, oui. Je ne suis pas un professionnel de la cybersécurité, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un informaticien, je suis un communicant qui travaille sur le sujet par des recherches depuis 30 ans. Chacun, on a une mise à jour qui est perpétuelle. Hein, comme on dit tout le temps, le problème en cybersécurité, c'est l'humain. Et c'est l'humain qui ne veut pas avoir ses backups, qui ne veut pas faire cette mise à jour. Mais c'est indispensable aujourd'hui de se remettre perpétuellement en question.
Entre autres.
C'est fou. Et écoutez, je pense que l'empathie devrait être aussi un élément... qui devrait normalement être en tous en nous, et c'est pas si évident que ça. Parce que l'intérêt économique, financier, concurrentiel, fait que les gens regardent pas obligatoirement d'un œil honnête la moindre discussion, la moindre envie.
Ouais, ils cherchent le moyen de faire quelques sous.
Ouais, là, de toute façon, ils se sont rendus compte que moi, il suffit de me nourrir à la poutine. Hein. Donc, je coûte pas cher.
Ah, c'est bien.
Oh. De toute façon, je vais finir par rouler, hein, soyons très clairs. On va me mettre dans la farine, on va me rouler. Et puis.
Tu vois les artères encrassées. Non, ça tue, ça, la langue. Trop de poutine, c'est bon avec modération. Mais heureusement pour toi, tu n'es pas là trop souvent. Donc,
là, c'est simple. On va dire la poutine qu'on a devant nous. Alors, il s'appelle comment ce pub? Le Pile
Pub.
Vraiment sympa. C'est dans le centre de Montréal. Après tout, à chaque fois qu'on se fait un petit resto, maintenant, on vous parle de notre lieu. On va sortir le guide du routard de la cybersécurité et de la bouffe. Je pense que ça pourrait être un concept rigolo. Et c'est simple. Hein. Vous avez un plat énorme avec ce fromage, avec ses frites, avec cette sauce dégoulinante. Et sentez ce fromage pouic-pouic, d'où son nom. Et franchement... On peut dire qu'elle est bonne, cette poutine ici. Hein?
Oh oui, elle est plus québécoise, plus comment le fromage quick-quick dedans. Tout le prix garni d'une quantité de viande.
Ah oui, mais moi, j'ai exagéré. Des champignons, du jambon de forêt, de la viande fumée, du bacon. Bref, autant dire que la surcharge de bagages dans l'avion, c'est pas mes bagages, c'est moi. Donc voilà, non, c'était un rendez-vous vraiment très intéressant.
Oui.
Différent, parce que encore plus professionnel qu'avec le Hackfest,
ouais.
Et avec des gens qui ont entendu parler cybersécurité, pays cybersécurité, on se rend compte avec pas vraiment une visibilité de ce qu'il y a derrière. Ils ont entendu parler de WORM, de ransomware, d'ATP, de WAF, de tout ce qu'on veut. Mais une fois qu'on leur met le nez dans la cybercriminalité, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, quand même 80% hein, de ces problèmes en informatique, quand on leur dit que les cybercriminels vont quasiment claquer 20% de l'argent qu'ils veulent pour le réinvestir dans du matériel, dans des techniques, etc.
Ouais.
Je pense que les gens, il faut ouvrir les yeux autre que dans ces super plaquettes. Bien métallisé, avec beaucoup de mots de marketing, avec beaucoup de beaux tableaux, pour se dire qu'en face, ils sont là, ils sont bien présents. Et c'est pour ça que s'informer, c'est sécuriser.
Énormément, sur l'événement, pour faire lever le chapeau à l'événement Les Affaires, c'est un événement qui est fait justement pour amener les gestionnaires d'entreprise, entre autres, principalement. à venir se familiariser avec des concepts dont tu étais venu leur présenter, puis je pense que tu les as revirés dans leur champ. Parce qu'il y a plusieurs, au-delà des tableaux de gestion de l'entreprise, on a vu beaucoup d'éléments de sécurité, terrain, comme tu as pu le présenter, mais de la vraie criminalité, des vraies données, des vraies choses. Puis ça, je reprends beaucoup ce que Steve dit, on devrait criminaliser les entreprises, au même titre que Sarbanes est arrivé, les gestionnaires d'entreprise sur les lacunes majeures, la négligence. Puis on le voit, les Américains, à cause d'Equifax, autant le Congrès que le Sénat américain sont en train d'envisager de mettre des lois contre l'incompétence et de charger criminellement les dirigeants d'entreprise qui ne font pas suffisamment pour protéger les informations. Donc, même les Américains sont rendus là. Donc, quand eux sont rendus, c'est grave. Faut continuer la sensibilisation, continuer à porter le message. Le podcast est un très beau véhicule. Je vous remercie. Nous vous remercions de nous écouter régulièrement pour ça. Ça, c'est Damien, c'est pas moi. Je n'ai pas ce degré d'affection.
Non, par contre, il y a aussi, parlant de degré d'affection, c'est marrant parce que ça vient de me faire tilt. Social engineering aussi.
Oui.
Éduquez-vous à ce sujet. Là, dans l'une de mes conférences, ils ont eu 10 minutes de social engineering que j'ai préparé, en fait, 5 minutes avant de faire ma conférence. Je vais prendre 3 petits exemples très concrets. Une machine qui permet de recharger son matériel informatique. Je leur ai montré que je pouvais modifier le câble qui pensait être celui de la machine. C'est tout bête, c'est tout con, mais le social engineering commence par là. Est-ce que le câble que tu as utilisé dans cette machine qu'on te promet être capable de charger ton téléphone est véritablement le bon câble ? Il y a des gens, bon, ça c'est dans mes conférences, hein, je ne vous dis pas tout, hein, parce que sinon c'est pas drôle, mais aussi j'adore demander aux gens de regarder dans leur poche ou de regarder dans leur sac et de me dire s'il y a un objet qui ne leur appartient pas. Moi, il faut savoir que là, dans cette conférence-là, des personnes avaient une clé USB dans leur poche, sur leurs vêtements, que j'avais réussi à placer au moment où on se retrouvait devant les toasts. Et quand en conférence, vous leur dites, bah, voilà votre poche, voilà, regardez s'il n'y a pas une clé USB dedans, ça marche de feu de Dieu. Là, les gens, ils étaient tous, alors c'est pour ça que j'ai dit que le Québécois n'aime pas être trop secoué, parce qu'ils étaient tous en train de regarder, choqués plus par le fait que j'avais mis ma main dans leur poche sans qu'ils la sentent, que cette clé USB qui aurait pu les détruire. Et juste dernier petit exemple, c'est attention à vos bloc-notes. Le bloc-notes que vous avez dans un salon, qui est souvent votre petit cahier qui vous suit partout, quand vous allez boire un verre, le bloc-notes, vous ne le laissez pas sur la table. Vous allez éteindre votre ordinateur portable, mais le bloc-notes, vous allez le laisser. Ah, pas pour lire ce que vous avez écrit. Non, moi, je vais écrire quelque chose dedans que vous allez retrouver peut-être demain ou après-demain. Un numéro de téléphone, un mail, et peut-être... Dans tous les cas, je ferai de manière à ce que dans 3-4 jours, vous l'utilisiez. Et comme c'est vous qui allez l'utiliser, le frein psychologique de mon social engineering a déjà fait sauter 50% de votre sécurité mentale.
Oui, oui. Mais c'est un sujet intéressant. On devrait y revenir de toute façon, social engineering. Personnellement, ces temps-ci, je m'intéresse beaucoup aux scams dans les bars, entre autres, ou la façon qu'utilisent l'interaction entre les gens pour effondrer les barrières que les gens se font, et spécifiquement, et les magiciens qui expliquent toutes les stratégies, ou dans le fond, expliquent les stratégies des pickpockets. Et les stratégies des pickpockets, on peut penser qu'on est, ah non, on est bon, on est éveillé, tout ça. Ouais. Et c'est fascinant à quel point ils vont juste dévier notre attention, même si on fait attention, pour nous soutirer quelque chose, notre portefeuille, notre téléphone. C'est fascinant.
Ben regardez, on a fait la démonstration tout à l'heure en direct avec cette personne qui vient prendre les cartes bancaires pour payer. Bon, je ne vous dirai pas les gestes qu'elle a fait, mais clairement, avec sa main, elle m'a indiqué où était posé le bloc qui reçoit son lecteur de carte bancaire. Elle m'a expliqué qu'elle en avait donc 2. Et donc, du coup, moi, c'est déjà une orientation en social engineering de savoir où est cachée la machine, comment il la protège, pour éventuellement faire un tour de passe-passe pour la changer, pour peut-être piéger ce lecteur de carte bancaire qui, tous les vendredis, de 18h à 19h, s'occupera que des cartes Mastercard, par exemple, qui me seront envoyées en Bluetooth, parce que j'aurais modifié la machine pour ça.
Oui.
Nous vivons dans un monde merveilleux.
Un monde merveilleux, mais pas pour les gentils. Un monde merveilleux pour les méchants. Mais On va conclure sur ça.
Merci, Nicolas.
Merci énormément. Ça a été très agréable de voir en visite au Canada.
Ah bah écoute, moi, c'est, j'y viens une à deux fois par an. Et je, vous, moi, je vais être très honnête. Hein. Si jamais un Canadien ou un Québécois veut m'adopter, je suis là, je suis présent. Adoptez-moi. Je mange, hein, par contre, je bouffe. Hein, je vous préviens tout de suite. Hein.
Poutine, principalement. Poutine.
Ah, merci bien, en tout cas, Nicolas.
Et moi aussi, je viens d'avoir un flash. C'est vrai, le concours de Silent Jam du Hackfest, je crois qu'il va encore revenir cette année. Donc, soyez à l'affût. Moi aussi. Ça aussi, c'est très intéressant. Puis toi aussi, tu risques de, d'être dans ta cage de verre une nouvelle année. Donc, non, surveillez ça. Très intéressant parce que c'est, ça vient réveiller un peu... bien des choses en nous, puis c'est très important comme élément d'éducation, de sensibilisation. Sur ce, à la prochaine.
Ciao, ciao!
Bon retour!